Chapitre 12. Le seigneur d'Orwin prisait. Il portait également les cheveux longs, et la profusion de boucles soigneusement entremêlées qu'il arborait avec ostentation indiquait assez sûrement l'intervention d'un homme de l'art. À cela s'ajoutaient de longs favoris blonds, savamment ébouriffés, qu'il caressait tendrement. Pour couronner le tout, il s'exprimait avec une extrême affectation et ne prononçait pas les R. Hardin n'avait pas pour l'heure le temps de s'apesantir sur les raisons pour lesquelles le noble chancelier lui avait inspiré dès leur première rencontre une antipathie irrépressible. Certes, il y avait ces gestes élégants de la main dont l'autre ponctuait ses propos et la condescendance étudiée qui marquait jusqu'à la plus simple de ses affirmations. Mais le plus urgent était maintenant de le retrouver. Il avait disparu avec Pirène une demi-heure auparavant, mais complètement, évaporé. Hardin était sûr que sa propre absence lors des discussions préliminaires faisait parfaitement l'affaire de Pirène. Mais Pirène avait été aperçu dans ce corps de bâtiment à cet étage. Il suffisait d'essayer toutes les portes. Arrivé à mi-hauteur du bâtiment, il poussa une exclamation retentissante en pénétrant dans une pièce enténébrée. Aisément reconnaissable, à sa coiffure élaborée, le seigneur d'Orwin se détachait en ombre chinoise sur l'écran lumineux qui équipait le local. Le seigneur d'Orwin leva les yeux et s'exclama
« Ah, Hardin, vous nous cherchiez sans doute !»
Il lui tendit une tabatière à l'ornementation chargée et ce qui n'arrangeait rien aux yeux de Hardin de bien piètre facture. Devant le refus poli qu'on lui opposa, le seigneur d'Orwin prit une pincée de tabac en souriant avec grâce. Pirène considérait la scène avec mépris, Hardin avec l'expression de la plus parfaite indifférence. Le seigneur d'Orwin referma le couvercle de sa tabatière avec un petit bruit sec, rompant pour la première fois le silence qui s'était établi entre eux. Puis il fit disparaître l'objet et dit
« C'est une superbe réussite que votre encyclopédie, Hardin. Une entreprise digne des plus grandes œuvres de tous les temps. »
C'est l'avis de la plupart d'entre nous, votre grandeur. Mais nous ne sommes pas encore au terme de notre travail.
D'après ce que j'ai vu du fonctionnement de votre fondation, voilà qui ne m'inquiète guère. Vous m'avez l'air rudement efficace.
Il se tourna vers Pirène qui, au comble du contentement, se fendit d'une révérence. Ils sont trop mignons, songea Hardin. Puis il ajouta, à voix haute cette fois,
Votre Altesse Sérénissime, je ne me plaignais pas tant du manque d'efficacité de notre entreprise que de la trop grande efficacité de celle des Anacréoniens. Même si forcé de reconnaître que leurs activités sont d'une nature relativement différente et nettement plus destructrice.
Ah oui, Anacreon,
fit le chancelier avec un petit geste méprisant.
J'en viens justement. C'est une planète tout à fait barbare. Je ne comprends pas comment des créatures humaines peuvent vivre dans la périphérie. On n'y trouve rien de ce qui peut faire le bonheur d'un homme cultivé. On y ignore tout confort, toute commodité, même la plus élémentaire. Songez qu'ils en sont réduits à...
Hardin l'interrompit sèchement.
Les Anacréoniens, malheureusement, possèdent tout ce qu'il faut pour faire la guerre et disposent des engins de destruction les plus perfectionnés.
C'est vrai, c'est vrai.
Le seigneur d'Orwin semblait agacé. Peut-être n'aimait-il pas être interrompu au milieu d'une phrase.
Mais... Nous ne sommes pas là pour parler affaires. J'ai d'autres soucis en ce moment, vous savez. Allons, docteur Pirène, si vous me montriez le deuxième volume, ne vous faites donc pas prier.
Les lumières s'éteignirent. Et dans la demi-heure qui suivit, on ne fit pas plus attention à Hardin que s'il avait été sur Anacreon. Le livre qu'on projetait sur l'écran ne l'intéressait guère, et il ne cherchait même pas à suivre. Mais le seigneur d'Orwin, lui, manifesta un tel plaisir que, dans son excitation, il lui arriva de laisser échapper un « R » de ci de là. Quand la lumière revint, il déclara
Merveilleux, absolument merveilleux. Vous ne vous intéressez pas à l'archéologie par hasard, Ardine ?
Hein ? Quoi ? Ardine dut faire un réel effort pour s'extraire de sa rêverie. Non, votre grandeur, je ne peux pas dire que la question me passionne. Je me destinais à devenir psychologue, et j'ai finalement opté pour la politique.
Ah, ce sont là des études fort intéressantes, à n'en pas douter. Pour ma part, figurez-vous,
reprit-il en s'administrant une énorme prise de tabac,
que j'ai un faible pour l'archéologie.
Voyez-vous cela ?
Sa seigneurie, expliqua Pirène, est une autorité en la matière.
Une autorité, c'est peut-être beaucoup dire,
dit sa seigneurie d'un ton complaisant.
J'ai énormément travaillé la question, c'est vrai, j'ai énormément lu, c'est un fait. J'ai étudié tout Jardine, tout Obijazi, tout Cromwell, enfin, vous voyez.
J'ai entendu parler naturellement de ces auteurs, dit Ardine, mais je ne les ai jamais lus.
Vous devriez vous y mettre, mon cher. Vous ne regretteriez pas. Ce voyage dans la périphérie n'aura pas été inutile puisqu'il m'a permis de voir cet exemplaire de Lameth. Figurez-vous que cet ouvrage est complètement absent de ma bibliothèque. Vous n'oubliez pas, docteur Pirène, que vous avez promis d'en transdévelopper une copie pour moi avant mon départ.
Je m'en ferai un plaisir.
Le chancelier reprit aussitôt d'un ton doctoral.
Vous n'êtes pas sans savoir que Lameth apporte une très intéressante contribution aux connaissances dont nous disposions jusqu'alors sur la question de l'origine.
Quelle question ? Demanda Ardine.
La question de l'origine. Savoir en quel endroit a pris naissance l'espèce humaine, voyons.
Vous savez bien qu'on pense qu'à l'origine, la race humaine n'occupait qu'un seul système planétaire. Oui, ça je le sais. Seulement, personne ne sait exactement quel système.
Tout cela se perd dans la nuit des temps. Il existe bien des théories, évidemment. Sirius, disent les uns, d'autres penchent avec insistance pour Alpha du Centaure, ou pour Sol, ou pour 61 du Cygne. Mais tout cela tourne toujours dans le secteur de Sirius, vous remarquerez.
Et que dit Lameth ?
Eh bien, il a une théorie absolument révolutionnaire. Il s'efforce de prouver que les vestiges archéologiques découverts sur la troisième planète d'Actuarus montrent qu'il existait là des colonies humaines à une époque où l'on ne connaissait pas encore les voyages interplanétaires.
Cette planète serait donc le berceau de l'humanité.
Peut-être.
Il faudra que je lise attentivement l'ouvrage de Lameth et que je pèse le pour et le contre avant de pouvoir me prononcer.
Il est nécessaire de vérifier jusqu'à quel point ces observations sont fiables.
Ardine marqua une courte pause avant de demander. Quand Lameth a-t-il écrit son livre ?
Oh, il doit y avoir à peu près 800 ans. Naturellement, il s'est surtout servi des travaux de Glynn.
Alors pourquoi se fier à lui ? Pourquoi ne pas aller vous-même étudier les vestiges découverts sur la planète d'Arcturus ? Le seigneur d'Orwin haussa les sourcils et s'empressa de humer une prise.
« Mais pourquoi diable irais-je faire une chose pareille, mon cher ?»«
Pour recueillir des renseignements de première main, voyons. »«
À quoi bon ? Quelle idée que de vouloir aller s'empatouiller dans une telle histoire ?» Vous parlez d'une méthode, ce serait bien trop compliqué. J'ai les ouvrages de tous les vieux maîtres, de tous les grands archéologues d'autrefois. Je les confronte,
Je pèse le pour et le contre de chaque théorie, décortique les affirmations contradictoires, décide de ce qui est correct selon toute probabilité et j'en tire ma conclusion. C'est cela la méthode scientifique. Du moins, conclut-il d'un ton protecteur, c'est la conception que j'en ai, moi.
Oh, mais comme ce serait vulgaire d'aller comme ça faire le voyage jusqu'à Acturus ou, je ne sais, tenez, jusqu'à Sol,
alors que les vieux maîtres ont fait cela bien mieux que je ne pourrais jamais rêver de le faire moi-même. Je vois, murmura Hardin poliment.
Si vous voulez bien me suivre, Votre Altesse, dit Pyrène, je crois qu'il est temps de rentrer.
C'est vrai. Vous avez sans doute raison.
Au moment où ils allaient quitter la pièce, Hardin dit brusquement « Noble seigneur, puis-je poser une question ?» Le seigneur d'Orwyn sourit machinalement et accompagna sa réponse d'un petit moulinet gracieux du poignet.
« Certainement, très cher. Trop heureux de pouvoir vous aider, si mes modestes connaissances peuvent vous être utiles en quoi que ce soit. »
« Il ne s'agit pas précisément d'archéologie, votre grandeur. »«
Non ?»«
Non. » »« Voici ce dont il s'agit. » »« L'an dernier, nous avons appris sur Terminus qu'une centrale énergétique avait explosé sur la planète V de Gamma d'Andromède. Mais nous n'avons eu aucun détail sur l'accident. Je me demandais si vous pourriez me dire exactement ce qui s'est passé. » Pyrène eut un rictus d'impatience.
Je ne vois vraiment pas pourquoi vous ennuyez sa seigneurie avec des questions tout à fait hors de propos avec le sujet qui nous occupe.
Mais pas du tout. Pas du tout, docteur Pyrène,
protesta le chancelier.
Je vous répondrai volontiers, d'autant qu'il n'y a pas grand-chose à dire sur cette affaire. La centrale a en effet explosé et ça a été une véritable catastrophe, vous savez, les radiations, j'imagine. Le gouvernement envisage sérieusement de contrôler de plus près l'emploi de l'énergie nucléaire. Mais il s'agit là naturellement de mesures confidentielles.
Je comprends, répondit Hardin. Mais quelle était la nature du dysfonctionnement?
Ma foi,
expliqua le seigneur d'Orwyn sur un ton indifférent. On ne sait pas très bien, à vrai dire.
L'usine était déjà tombée en panne quelques années plus tôt et l'on a pensé que les réparations n'avaient pas été suffisamment rigoureuses, que les pièces utilisées n'étaient plus d'aussi bonne qualité qu'auparavant. C'est si difficile de nos jours de trouver des ingénieurs qui comprennent vraiment tous les aspects techniques de nos installations nucléaires.
Sur quoi il s'octroya une prise d'un air mélancolique. Hardin poursuivit. J'imagine que vous n'êtes pas sans savoir que les royaumes indépendants de la périphérie ont également perdu l'usage de l'énergie atomique.
Pas possible. Ça ne m'étonne pas, vous savez. Ce sont des planètes vraiment barbares. Mais mon cher, ne parlez pas de royaumes indépendants. Ils n'ont rien d'indépendant, vous savez bien. Les traités que nous avons conclus avec eux sont formels. Ces planètes reconnaissent la souveraineté de l'empereur. Bien obligés de toute manière, sinon nous n'aurions pas de relation avec elles.
Cela se peut, mais elles n'en ont pas moins une grande liberté d'action.
Sans doute. Une liberté considérable. Mais cela n'a guère d'importance. L'empire a tout avantage à ce que la périphérie jouisse d'une certaine autonomie. Enfin, plus ou moins. Ce sont des planètes qui ne nous apportent rien, vous savez, tout à fait barbares, à peine civilisées.
Elles étaient civilisées jadis. Anacréon était une des plus riches provinces extérieures. Je crois savoir qu'elle soutenait même aisément la comparaison avec Vega.
Oh, Hardin, cela se passait il y a des siècles.
Vous ne pouvez pas en tirer de conclusion. La situation était très différente au bon vieux temps. Nous ne sommes plus ce que nous étions, vous savez.
Mais dites-moi, Hardin, Vous êtes bien entêté. Je vous ai dit que je ne voulais pas parler affaires aujourd'hui. Le docteur Piren m'avait bien prévenu que vous essaieriez de m'entraîner dans une discussion. Mais on n'apprend pas à un vieux singe à faire des grimaces. Nous examinerons tous ces problèmes demain. Et on en resta là.